toutes et à tous. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Et donc, ceux qui m'ont déjà entendu prêcher dans cette église savent que j'aime bien les petites histoires. Et l'autre jour, je lisais celle-ci racontée par Jean-Louis Gaillard, qui est pasteur. « Moi, je ne peux pas croire », me répondait l'autre jour ce voisin que j'encourageais à lire l'Évangile. « Vraiment ? Et qui est-ce que vous ne pouvez pas croire ?» Cette question ouvrit les yeux à ce sceptique. Il se rendit compte qu'il donnait chaque jour sa confiance, sans contrôle, à une foule de gens. Il croyait son journal, qui lui débitait toutes sortes de nouvelles vraies ou déformées. Il croyait ceux qui lui racontaient les potins du village. Il avait confiance en son épicier qui peut-être falsifiait sa marchandise. Bref, il se fiait aux hommes qui sont menteurs par nature, et le seul être qu'il ne pouvait pas croire, c'était Dieu. Mais ce jour-là, il crut. Il appliqua à Dieu-même cette confiance qu'il avait naturellement dans les hommes, et c'est ainsi qu'il reçut le salut. En effet, la foi consiste à recevoir ce que Dieu dit. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Pour ceux qui sont familiers de la parole de Dieu, nous connaissons un homme qui a cru et a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il s'agit... De qui s'agit-il ? Bravo ! Il s'agit d'Abraham. Alors que nous poursuivons ce matin notre série intitulée « Dieu te donnera un fils », arrêtons notre regard sur celui à qui Dieu a promis de donner une descendance nombreuse, alors même que cela paraissait tellement impossible. Voyons comment Dieu a tout organisé pour qu'Isaac vienne au monde et les erreurs ou les tentatives humaines pour faire ce que Dieu semblait ne plus vouloir faire. Cela nous apprendra sans doute quelque chose sur notre façon d'attendre ce que Dieu nous a promis à nous, chrétiens du XXIe siècle, en nous donnant son Fils Jésus-Christ. Alors la promesse. Qu'y a-t-il dans la promesse faite à Abraham ? L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc voici le texte de Genèse 12:1-8. Et dans ce texte, nous trouvons la mention d'une descendance promise à Abraham au verset 7. Mais si on reprend la Bible un peu avant, au chapitre 11 et au verset 30, on apprend de but en blanc que Sarai, l'épouse d'Abraham, est stérile. Elle ne pouvait avoir d'enfant. Alors comment donc Dieu peut-il donner un pays à la descendance d'Abraham ? En plus, ce pays, ce n'est pas la terre sur laquelle Abraham habite. Il est parti là de Our, qui est tout en bas, et puis il est en haut à Charan. Et donc, il part de Charan pour aller jusqu'en bas. Non, il faut qu'il aille ailleurs. Mais pourtant, Abraham croit. Il part vers ce pays dont il ignore tout. Il fait confiance à Dieu. En fait, si nous regardons de plus près le texte que nous avons lu, il contient 7 promesses. Je vous les ai mises en gras. Ces promesses de Dieu pour son serviteur. D'abord, « Je ferai de toi une grande nation ». Il faut avoir de la foi pour y croire, hein, si Sarai est stérile. « Je te bénirai ». Cela nous montre le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de bénir les hommes et de bénir l'homme qui croit en lui. « Je rendrai ton nom grand ». Quel nom que celui d'Abraham dans l'Écriture ! Il est père de tous ceux qui croient. Son nom est uni à celui de l'Éternel. Et l'Éternel, on l'appelle aussi le Dieu d'Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Alors, parce qu'il se révèle être juste et bon, la bénédiction qui repose sur Abraham peut se déverser sur tous ceux qu'il côtoie. Je bénirai ceux qui te béniront. Ce verset développe les derniers mots du verset 2. Abraham apportera la bénédiction avec lui. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Mais s'il y en a qui l'injurient, ils ne le feront pas impunément. Ainsi, le sort des nations est déterminé par la position qu'elles prendront à son égard. Enfin, 7e bénédiction, 7e promesse, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous l'avons entendu ce matin à plusieurs reprises, Jésus-Christ est la grande bénédiction donnée à ce monde, la plus grande qu'il ait pu recevoir. Toutes les bénédictions réelles ici-bas proviennent d'Abraham et de sa postérité. Par lui, nous avons la Bible, nous avons un Sauveur et nous avons l'Évangile. Voilà les valeurs sur lesquelles l'Église peut s'appuyer. Lorsque nous comprenons que nous sommes la descendance d'Abraham, nous découvrons alors que la promesse d'une descendance s'articule en plusieurs points, nous venons de les voir, mais qui nous concerne nous aussi. C'est bien beau tout ça. Dieu promet une descendance à Abraham. Alors, si vous étiez là la semaine passée, vous vous souvenez sans doute de l'histoire de la naissance de Samuel. Élie a annoncé à Anne qu'elle aurait un fils, et un an après, elle avait un fils. Temps à peu près normal pour une grossesse. Pour Abraham et Sarai, il n'en est pas vraiment de même. Donc j'ai rappelé que Sarai est stérile, et lorsqu'Abraham répond à l'appel de Dieu pour se diriger vers Canaan, il a 75 ans. Ils ne sont plus en âge, au moins son épouse, d'avoir des enfants. Et le temps s'écoule, et les années passent. Alors, on se demande combien de temps tout ça prend pour tout ce qui se passe. Donc, j'ai un peu regardé. À 75 ans, il se met en route et il a 86 ans lorsque Agar enfante Ismaël. Vous pourrez le retrouver en Genèse, chapitre 16 et le verset 16. Le voyage de Charan ou Haran, pour ceux qui sont troublés par ce nom, jusqu'à Canaan, a duré environ un an. Donc, il est resté une dizaine d'années en Canaan pour que ça fasse 75 plus 1, 76, plus arriver à 86, les 10 ans. Le séjour en Canaan n'a pas été de tout repos, puisqu'on le retrouve à Sichem, à Bethel, aux chaînes de Mamré et à Hébron, donc c'est à côté d'Hébron, hein, les chaînes de Mamré. Durant tout ce temps, pas de descendance, pas d'enfants. Et bien sûr, Sarah qui continue à vieillir. Pourtant, encore et toujours, Dieu renouvelle sa promesse. En Genèse 13, 16, il dit « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. » Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font le ménage, mais quand on enlève la poussière, hein, alors on pourra aussi compter ta descendance. Moi, je n'arrive pas à compter les grains de poussière. Jusque-là, nous voyons Abraham qui accepte ses promesses sans broncher. Pas de commentaire de sa part. On a vraiment la sensation d'un homme qui a le fond du cœur confiant. Il croit, il accepte. C'est vraiment un exemple de foi sincère pour nous. Pourtant, au chapitre 15, Abraham répond à Dieu qui lui parle dans une vision. « Je n'ai pas d'enfant et c'est Éliézer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance. » Mais Dieu renouvelle une fois encore cette promesse. « C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » La poussière, les étoiles, vraiment cette notion de quantité. Et Abraham continue encore à faire confiance à l'Éternel. Attendre, toujours attendre. Abraham a 86 ans lorsque naît son premier fils, fils de la servante de sa femme. Et le temps passe, la vie continue. Abraham et Sarah, ils sont tranquilles. Pour eux, l'enfant de la promesse est là. Et puis, le siècle de vie arrive à son terme pour Abraham. Et alors, il semble que naturel que Dieu, qui est souvent venu à sa rencontre, vienne encore une fois au-devant de lui. Et quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut. Il est intéressant de noter qu'à ce moment-là, Abraham et Sarah s'appelaient encore Abraham et Sarai. Alors qu'Ismaël a 13 ans, Dieu leur donne un nouveau nom avec l'alliance de la circoncision et le renouvellement de la promesse qu'Abraham aurait un fils de sa femme. Abraham, qui signifie « père vénérable », devient Abraham, père d'une multitude. Le nom de Sarai, ma princesse, est changé en Sarah, princesse, manifestant ainsi qu'elle a également part à la promesse donnée par Dieu. Elle n'est plus seulement l'épouse d'Abraham, hein, sa princesse à lui. Elle sera la mère d'une multitude, la princesse pour tous. La foi d'Abraham est mise à rude épreuve. Quoi ? À nouveau cette histoire d'enfant, mais il a eu son héritier. Et en plus, Sarah deviendrait maman. Mais comment ? Elle est bien trop âgée. Abraham rit intérieurement, nous dit-on en Genèse 17-17. Et tout s'accélère pourtant. Au chapitre 18, les versets 8 à 15, voilà ce que nous lisons. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écouta à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Donc, c'était les trois envoyés de Dieu qui ont annoncé cela. Oui, Sarah, elle aussi rit à la naissance, à l'annonce de sa prochaine grossesse. C'est d'ailleurs de ces réactions de rire, celle d'Abraham et celle de Sarah, que viendra le nom du bébé. Isaac signifie « il a ri ». Voici donc 25 ans qu'Abraham a quitté Charan avec sa famille, plus de 25 ans que Dieu lui a promis une descendance. Et à 100 ans, cette promesse voit enfin sa matérialisation. Isaac naît, enfant de la promesse tant de fois renouvelée par Dieu et acceptée par Abraham. Alors, c'est vrai que souvent, on a la tentation, lorsqu'on voit que les choses ne se passent pas comme on imaginerait, de recourir à des moyens un peu humains. Et alors que cette attente devenait intolérable pour Abraham et Sarai, une idée prend naissance dans l'esprit de l'une et est acceptée par l'autre. Puisque la nature empêchait Sarah d'enfanter, pourquoi ne pas faire appel à une mère porteuse ? L'idée est bonne. Abraham sera de toute façon le père et donc ce sera bien sa descendance. Alors, loin de moi l'idée de vouloir ouvrir un débat sur les mères porteuses et leur légitimité. Non, ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque nous sommes convaincus que Dieu nous a promis quelque chose, alors lorsque ça tarde à arriver, nous essayons d'agir avec nos moyens humains pour faire coller ce que nous avons compris des paroles de Dieu à notre réalité du moment, à notre envie de voir se réaliser la vision que Dieu a mise dans nos cœurs. Les sentiments prennent le pas sur la parole de Dieu. Comment cet homme de foi pense-t-il aider Dieu à honorer sa promesse et croire que l'Éternel a réservé la gloire de son héritage au fils d'une servante ? On a lu tout à l'heure que Éliézer devait hériter, mais ça ne plaisait pas trop à Abraham. Et maintenant, il va vers la servante de sa femme. On voit, si on lit l'histoire, que finalement, cette solution a causé des soucis à notre couple, malgré la joie de la venue d'un enfant. Malgré tout, la naissance d'Ismaël manifeste la grâce de Dieu qui l'a permise tout de même et qui bénira Ismaël plus tard. Et moi, ça me pousse à m'interroger. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place d'Abraham ? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Abraham, de Sarah ? Est-ce que vous auriez eu la même patience ? Et surtout la même foi ? C'est une histoire qui semble tellement invraisemblable, avoir un enfant à 90 et 100 ans. Est-ce que cette histoire de foi, de promesse, ce n'est pas juste un joli conte ? Au XXIe siècle, nous avons l'esprit bien plus scientifique. On ne peut pas se baser sur de telles histoires quand même. Alors laissez-moi vous raconter mon histoire, notre histoire à Hervé et moi, et la naissance de nos enfants. Alors, je me souviens bien d'en avoir raconté des bribes aux uns et aux autres, mais nous avons réfléchi sur les promesses de Dieu tout au long des années et sur notre confiance en lui grâce à ce qui nous arrivait. Lorsque nous nous sommes connus, afin d'être sûrs de la volonté de Dieu pour nous, nous avons chacun de notre côté posé la question à Dieu. Est-ce ta volonté que nous nous marions ? La réponse a été sans contestation possible. Hervé a reçu Jérémie 29,6. Mariez-vous et ayez des enfants, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Et moi, j'ai reçu Genèse 9,1. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors, nous étions émerveillés par cette réponse, soulagés aussi, parce que oui, Dieu nous disait qu'on pouvait se marier, mais impressionnés par cette réponse. Et nous l'avons prise comme une promesse, nous allions avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Et ça n'a pas été facile, ni sans douleur, ni sans larmes. Ma première grossesse était une grossesse extra-utérine, dont j'ai failli mourir. La deuxième tentative s'est terminée en fausse couche, tout comme la troisième. Nous ne comprenions plus rien. Tout comme parfois Abraham ou Sarah qui connaissaient la promesse faite par Dieu, mais qui voyaient le temps passer sans résultat. Finalement, alors que nous ne nous y attendions pas, un petit bonhomme est venu agrandir notre foyer. Nous l'avons appelé Matthieu, don de l'Éternel. L'ordre était de se multiplier, alors on a pensé que ça y est, la mauvaise série était finie. Il y a pourtant encore eu une nouvelle fausse couche, puis une nouvelle grossesse extra-utérine. Le gynécologue, guidé par la main de Dieu, a pu sauver ma trompe, mais ses ordres étaient formels, pas de nouvel enfant avant plusieurs années. Pourtant, quelques mois plus tard, il est revenu sur son conseil. Les examens montraient contre toute attente que mon corps était complètement guéri. Notre chère Anne Rachel a alors rejoint notre foyer. Et puis, de nouveau, une fausse couche et finalement, une dernière grossesse extra-utérine a ruiné nos espoirs de voir notre famille s'agrandir encore. Alors, tout comme Abraham et Sarah, nous avons eu recours aux moyens de procréation qui existaient à l'époque. Deux tentatives de fécondation in vitro ont échoué. Ça a été un moment compliqué pour accepter qu'il n'y aurait plus de nouvel enfant dans notre famille. Et la promesse de Dieu, avoir des enfants. Et puis, nous avons cheminé, nous avons fini par être reconnaissants alors que d'autres couples autour de nous n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et c'est là que la grâce de Dieu s'est manifestée. Nous avons eu la joie d'enseigner, d'éduquer, de soutenir et d'aimer tellement d'enfants, de jeunes, en tant que missionnaires, responsables d'écoles, de collèges, de centres de formation professionnelle au Cameroun. Et puis, hélas, notre beau-frère est décédé d'un cancer et sa dernière fille nous a demandé de devenir ses parents adoptifs. Encore un enfant dont nous étions responsables. Oui, nous pouvons dire que nous avons eu de nombreux enfants selon la parole que Dieu nous avait adressée pour nous encourager à nous marier. Mais avant cela, combien de questionnements, combien de doutes. Dans ces moments-là, c'était bon d'avoir la parole de Dieu et de pouvoir relire parfois qu'Abraham avait cru et que de façon tellement miraculeuse, Dieu était intervenu après une si longue attente. Alors, dans un dernier point, j'aimerais que nous regardions quelle est vraiment la promesse faite à Abraham. Lorsque nous reprenons l'histoire de la naissance d'Isaac, son annonce si longtemps avant sa venue au monde, nous pouvons comprendre que les promesses de Dieu concernaient bien plus qu'Abraham et Sarah et leur bonheur du moment. En Isaac, ce fils de la promesse se concrétise la venue d'une descendance qui sera bien plus que le souvenir d'Abraham sur cette terre. Lorsque nous lisons Genèse 17:6, je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations, des rois même seront issus de toi. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à celui qui naîtra un jour à Bethléem, le roi des rois. Isaac, le fils d'Abraham et Sarah, est né de façon miraculeuse à un âge où on ne peut plus avoir d'enfants. De même, Jésus, le fils de Dieu, naîtra de façon tout aussi miraculeuse. Dieu éprouvera la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Et Dieu nous fera le cadeau suprême en nous donnant son propre fils en sacrifice pour nous sauver de nos péchés. Alors, pour continuer ce message, permettez-moi de citer le pasteur Nicolas Pouette dans une de ses prédications sur Genèse 15. Tout d'abord, ceux qui placent leur foi en Jésus sont descendants d'Abraham. Dans deux textes où l'apôtre Paul répond à la question « Qui est la descendance d'Abraham ?», il indique clairement que la foi d'Abraham est la condition nécessaire pour être son descendant. En Galates 3:7, nous lisons « Comprenez-le donc. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. » Et en Romains 4:13, « Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, non parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. » On comprend alors mieux quand se sont pleinement accomplies les promesses faites à Abraham. C'est uniquement avec la naissance de l'Église qu'Abraham est devenu père d'une multitude de peuples. En effet, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, c'était le peuple hébreu, les Juifs. Il y a eu quelques exceptions, Ruth, Rahab. Mais avec toute l'Église, le peuple de Dieu est composé de personnes de toutes les nations et de toutes langues, juifs, arabes, français, africains, chinois, japonais, gabonais. C'est Terry qui nous l'a rappelé ce matin avec son groupe de maison. L'alliance faite ici avec Abraham est donc une anticipation de l'alliance en Jésus-Christ. Et Genèse 12:3 disait « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Un deuxième point que souligne Thomas Pouette, être juste, c'est avoir placé sa foi en Jésus-Christ. Ainsi, dans le temps présent, être juste, c'est d'avoir placé sa foi en Jésus-Christ. À la croix, comme avec Abraham, c'est une alliance de pure grâce qui a été passée avec l'humanité. C'est Dieu seul qui a pris l'initiative. La croix est le plus grand signe de l'amour de Dieu. Comme le dit Romains 5, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Jésus, qui est Dieu lui-même, a accepté de donner sa vie pour nous, pour que nos fautes soient pardonnées et pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Alors, entre dans l'alliance. N'attends pas que Dieu fasse le premier pas vers toi, il l'a déjà fait. N'attends pas de pouvoir faire le premier pas vers Dieu, tu ne le peux pas. La seule manière d'entrer dans la promesse de Dieu à Abraham, dans cette promesse qui a commencé à s'accomplir par la naissance d'Isaac, c'est d'accepter cette alliance offerte, d'accepter le sacrifice de Jésus pour moi à la croix. Alors ce matin, en signe de cette alliance, je vous invite à partager le repas que le Seigneur a institué. Vous tous qui avez décidé d'accepter cette alliance offerte, d'accepter le sacrifice de Jésus pour vous à la croix, sentez-vous invités à y participer. J'invite donc ceux qui sont désignés pour distribuer la Sainte Cène ce matin de venir, de se préparer. Si vous vous questionnez encore, vous laisserez passer les éléments. Mais si vous avez accepté cette alliance, sentez-vous bienvenue. Selon l'habitude de notre Église, nous mangerons le pain au moment où nous allons le recevoir, et puis nous attendrons que tous soient servis pour prendre la coupe ensemble. L'héritage promis à Abraham, quand le posséderons-nous ? C'est lorsque Jésus reviendra que tous ceux qui ont placé leur foi en lui hériteront de la vie éternelle. Comme le dit le chant, non jamais tout seul. Nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur est notre bouclier pour toujours. Il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de guerre, car la sombre vallée n'a plus de terreur. Cette promesse dont nous attendons encore l'accomplissement est notre espérance, notre ancre pour notre vie quotidienne. Elle est pour tous ceux qui placent leur confiance en Dieu, pour tous ceux qui acceptent qu'ils ne sont déclarés justes que grâce à la mort de Jésus, pour tous ceux qui entrent en relation avec Dieu, comme notre père Abraham l'a fait, pour ceux qui savent que Jésus est constamment auprès d'eux. Amen.